Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui. La bataille du Donbass est engagée. Nouvelle étape dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'armée russe progresse dans l'Est. Elle dit vouloir la libérer de l'Ukraine. Avec quels dégâts pour les derniers bombardements? Quels résultats? Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux dans cette région où la guerre a en fait débuté il y a 8 ans. Et puis nous dessinerons la nouvelle carte militaire de ce conflit. Préparer le débat sans en avoir l'air. Les deux candidats à la présidentielle, le nez dans leur fiche aujourd'hui à la veille du duel de l'entre-deux-tours. Nous verrons comment ils s'y préparent et avec quelle équipe pour Marine Le Pen. Équipe réduite à partir de 13h30. L'un des porte-parole de la candidate du Rassemblement National, Sébastien Chenu, sera notre invité. Vous lui posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Marine Le Pen qui propose d'utiliser plus souvent le référendum si elle est élue. Le référendum et la République, ce sera juste avant 14h le vif de l'histoire de Jean Lebrun. Dans l'actualité de ce mardi également, les compagnies aériennes à bas coût face à la fronde de leurs salariés. Les voyageurs de Volotea l'ont senti passer ce week-end. Le débat en Chine autour des bébés génétiquement modifiés. Un grand bol d'air et de prudence sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord aujourd'hui. Dernier jour des grandes marées. Nous serons en baie de Somme. Et puis c'est une chanson à 13h45. La metteuse en scène Salomé Lelouch fredonne Ben Mazoué avec Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Des bombardements aux quatre coins du pays, des colonnes de blindés en route vers Kiev, le sud du pays envahi. On se souvient de l'entrée en guerre de la Russie il y a 55 jours en Ukraine, massive, tous azimuts. L'offensive dans l'Est, qui a débuté hier selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, est manifestement d'une toute autre nature, moins ambitieuse, plus limitée dans l'espace, concentrée dans une région, le Donbass, où la guerre fait rage depuis 2014 entre Russes et Ukrainiens. Alors comment cette offensive se traduit-elle sur place? Bonjour Omar Waman.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre envoyé spécial dans la région. Que percevez-vous de cette attaque, Omar?
Eh bien, en fait, l'offensive a débuté quelques jours avant avec des bombardements incessants des séparatistes pro-russes sur des villes comme Roubijne ou Popasna qui se trouvent le long de la ligne de démarcation, cette ligne gelée depuis des années, des frappes qui ont en quelque sorte préparé l'offensive d'hier soir et qui avait pour objectif de percer les lignes ukrainiennes. C'est ce qui s'est soldé à ce stade par un échec. Les soldats ukrainiens opposent une résistance acharnée. Il faut savoir que ces militaires de l'armée ukrainienne sont les plus aguerris. Ils connaissent le terrain par cœur et ils ont l'expérience de la guerre dans le Donbass qui a débuté, comme vous l'avez dit, en 2014. Alors que l'armée russe, elle, rencontre d'énormes problèmes de logistique depuis le début du conflit, des erreurs qu'elle ne veut pas répéter dans le Donbass, comme celles commises aux portes de Kiev, des problèmes d'approvisionnement, notamment en carburant. Donc cette offensive dans l'est de l'Ukraine va monter en puissance. On est dans une période intermédiaire et on s'attend dans les prochains jours à vivre quelque chose de très difficile.
Omar, les autorités ukrainiennes avaient demandé aux civils d'évacuer les villes proches du front. Qu'en est-il ?
Alors les civils ont répondu en masse aux appels des autorités ukrainiennes à quitter le Donbass pour éviter de vivre le même sort que les habitants de Mariupol, un siège infernal coupé du monde et privé de tout, une injonction qui n'a pas été acceptée par tous. De nombreux civils sont restés dans le Donbass, ils se comptent en dizaines de milliers, ils vivent terrés dans les abris souterrains, notamment dans les villes proches de la ligne de front. Ils ne sortent que pour aller chercher de l'aide humanitaire, car les commerces sont souvent fermés. Ces civils sont pour beaucoup très âgés. Certains ne peuvent tout simplement pas fuir, pas partir, car trop fragiles. Ce sont des personnes totalement démunies. C'est une population exsangue que nous avons croisée avec Gilles Gallinaro, une population qui restait dans le Donbass, souvent dans l'impossibilité de fuir, même si le pire est à prévoir.
Omar Waman, en direct d'Ukraine, de cette région du Donbass, avec les moyens techniques, vous le disiez, de Gilles Gallinaro. Une offensive qui intervient alors que des soldats ukrainiens résistent encore dans le port de Mariupol, assiégé depuis des semaines. Ils sont regroupés dans une usine métallurgique. L'armée russe dit donner l'assaut et appelle ces Ukrainiens, je cite, à cesser leur résistance insensée. Changement de stratégie donc pour la Russie. Nous voulons libérer militairement le Donbass, affirme ce midi son ministre de la Défense. Cette région est, dit-il, indépendante de l'Ukraine. Sergueï Choïgou qui parle toujours d'opération militaire spéciale et pas de guerre. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Vous vous trouvez un peu en retrait du front, vous êtes en direct de Zaporijja, toujours en Ukraine. Camille, l'idée est de faire porter l'effort pour les Russes sur un territoire plus réduit. C'est une stratégie peut-être plus adaptée à leurs moyens?
Oui, ce secteur, bien sûr, hein, c'est celui du Donbass ukrainien qu'il va s'agir de réduire plus et plus pour les Russes, avec non pas une seule offensive, hein, qui apparaît sur les cartes actualisées des opérations militaires depuis ce matin, mais en fait trois mouvements simultanés depuis le nord, depuis l'est et le territoire russe, et puis depuis le sud, des bombardements qui se sont intensifiés ces dernières heures, des combats au sol des troupes russes, hein, qui essayent d'avancer pour, on l'a dit, hein, prendre en étau, c'est vraiment cette image-là, hein, se réduit ukrainien de Kramatorsk et de Sloviansk. La résistance ukrainienne dans Mariupol, que vous évoquiez aussi, Mariupol assiégé, cette résistance a monopolisé les troupes russes dans le sud-est, mais à présent, eh bien, les dernières poches de résistance ukrainienne tombent. Les garnisons russes commencent apparemment à remonter vers le centre du Donbass, le secteur de Pokrovsk et de Donetsk, bien sûr. On voit en chemin une intensification des combats, hein, dans le secteur de Oulaï-Polé et Polohi, à une centaine de kilomètres de Zaporijia, où nous nous trouvons. Un chef de l'administration locale, d'ailleurs, ici, me disait tout à l'heure hors micro que les autorités militaires sont très préoccupées par l'intensification des manœuvres russes. L'enjeu pour les Russes, c'est bien de prendre le Donbass encore ukrainien. Trois attaques simultanées donc, et donc des autorités qui, bien sûr, résistent, mais qui sont gagnées, clairement, on le voit, par la tension que poussent les Russes depuis quelques heures.
Camille Magnard, depuis Zaporijia en Ukraine, avec une liaison technique assurée par Laurent Macchietti. Merci à tous les deux. Alors, cette nouvelle offensive russe dénoncée par l'Ukraine pose la question de l'efficacité des sanctions adoptées par les Occidentaux contre le régime de Vladimir Poutine. Insuffisante, selon plusieurs économistes, comme le français Thomas Piketty ou l'américain Joseph Stiglitz. Il demande aux dirigeants des 20 pays les plus riches du monde de mieux cibler les fortunes des oligarques disséminés, voire cachés, un peu partout sur la planète, en créant un registre mondial des actifs. Tribune dans le quotidien britannique The Guardian ce matin. L'oligarque russe Souleyman Kerimov fait partie des personnalités ciblées par les États-Unis, et à la demande des Américains, les îles Fidji vont immobiliser l'un de ses super yachts, l'Amadea, dont la valeur est estimée à 325 millions de dollars. Au-delà de cette traque des avoirs russes, quelle réponse de la communauté internationale à cette nouvelle étape de la guerre? Plusieurs chefs d'État, dont Emmanuel Macron et Joe Biden, doivent s'entretenir à la mi-journée. Marine Le Pen, elle a réagi dès hier soir en condamnant, je cite, l'offensive russe contre le peuple ukrainien au Donbass. On ouvre la page présidentielle dans une minute. Avant cela, penchons-nous sur l'une des conséquences de ce conflit. Anecdotique, certes, rien de dramatique, mais qui raconte aussi le moment que nous vivons. L'huile de tournesol se fait de plus en plus rare, car elle est principalement importée d'Ukraine. Parmi les plus impactées, les friteries, nombreuses dans le département des Ardennes. Sébastien Baer s'est rendu dans l'une d'entre elles, à Rouvroy-sur-Audry, à une vingtaine de kilomètres de Charleville-Mézières.
La friterie de l'Audry, sa terrasse ensoleillée, sa salle bondée, ses fricadelles, cervelas, kebabs et ses frites.
3,60€, la grande barquette.
Ce jour-là, pour le service du midi, la salle est comble. Les 90 couverts sont réservés. Karine, la serveuse, passe de table en table à la rencontre des clients.
Bonjour.
Des habitués pour la plupart.
Est-ce que vous êtes au courant que l'huile, elle a augmenté? Le bidon de 25 litres et de 33€ est passé à 110€.
Si c'est juste pour que les gens s'en mettent plein les poches, c'est une honte.
Face à cette inflation du bidon d'huile, le patron Gaëtan Flamand a fait ses comptes.
On perd 50% de marge sur une frite qu'on vend 2,60€, la petite frite. Moi, je perds 1,20€, 1,30€.
C'est des frites en or. Hein.
Mais pas question dans l'immédiat de répercuter cette hausse sur les prix du snack. En tout cas, Edith, une fidèle cliente de 81 ans, n'est pas d'accord.
Pas trop, les salaires n'augmentent pas, les retraites n'augmentent pas.
On ne peut pas vendre une barquette de frites 10€, c'est impossible. Les gens ne vont pas dépenser 50€ juste pour manger dans une friterie.
À la fin de la semaine, le patron de la friterie remplacera l'huile de tournesol russe et ukrainienne par de la graisse de bœuf belge, trois fois moins cher. Mais d'autres ont eu la même idée et déjà, les prix commencent à s'envoler.
Bon après-midi, bon retour.
Reportage dans les Ardennes, signé Sébastien Baer.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
La question du pouvoir d'achat, il en est aussi question dans la campagne présidentielle. Le duel de l'entre-deux-tours, les derniers sondages donnent l'avantage à Emmanuel Macron, entre 54 et 56% des intentions de vote pour le président candidat à 5 jours du second tour. Mais Rien n'est joué, le match n'est pas plié, a averti ce matin sur Inter le Premier ministre Jean Castex. C'est dire l'importance du débat entre les deux candidats demain soir sur TF1 et France 2. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Importance de ce débat, même si dans les deux camps, on dédramatise l'échéance.
Oui, côté Marine Le Pen, plusieurs de ses proches nous assuraient encore hier soir qu'elle se mettait bel et bien au vert en Normandie, dans la résidence secondaire d'un conseiller, pour simuler l'affrontement avec un faux Emmanuel Macron, passer en revue tous les sujets techniques et se mettre dans les meilleures conditions psychologiques. Pourtant, la candidate elle-même jurait un peu plus tôt hier midi sur France Bleu que non, non, elle n'avait pas besoin de s'isoler à la campagne, qu'elle se préparait chez elle, comme elle prépare toutes ses émissions. Bref, on ne sait pas vraiment où est Marine Le Pen. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut surtout pas renvoyer l'image d'une candidate fébrile qui se coupe du monde pour réviser ses fiches, vous savez, dans lesquelles elle s'était perdue en 2017.
Du côté d'Emmanuel Macron, on cherche aussi à désacraliser ce rendez-vous.
D'abord, en faisant de l'adversaire celle qui a le plus à perdre, c'est Marine Le Pen qui est sous pression, ne cesse de répéter les soutiens du président sortant, et puis en faisant tout pour montrer que le candidat Macron, lui non plus, ne fait pas de ce débat un moment particulièrement décisif, entre obligations du président, audioconférence diplomatique cet après-midi avec Biden et Zelensky entre autres, conseil des ministres demain matin, et activisme du candidat, déplacement jeudi et dernier meeting vendredi. Il veut faire oublier en gros que lui aussi est dans une posture délicate. Après son naufrage d'il y a 5 ans, Marine Le Pen ne peut que gagner, craignent certains macronistes, alors qu'Emmanuel Macron, lui, a un double défi à relever, défendre son bilan, exercice toujours très difficile, sans pour autant paraître arrogant.
Décryptage signé Simon Le Baron. Alors Marine Le Pen dit avoir retenu la leçon de 2017, elle s'est dégagée du temps pour se préparer, on ne sait donc pas où. On en sait plus en revanche, Élodie Forêt, sur l'équipe qui l'entoure en ce moment, une dizaine de personnes.
Une poignée d'intimes et quelques experts pour épauler Marine Le Pen. Si Florian Philippot, artisan de 2017, a depuis longtemps coupé les ponts, d'autres figures de la dernière campagne sont toujours là. Son beau-frère et conseiller spécial Philippe Olivier, pourvoyeur d'idées et de concepts, ainsi que son chef de cabinet Renaud Labaye au profil plus technique. À ses côtés aussi, celui qui au fil des mois aura pris une importance capitale, l'ex-bras droit de Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Philippe Tanguy, l'un des promoteurs de cette campagne de l'ultra-proximité. Passeront enfin des membres des Horaces, ce club mystérieux créé en 2015 où se côtoient des énarques, chefs d'entreprise aux fonctionnaires. La plupart ne sont pas sortis du placard, quelques-uns seulement assument, comme Philippe Nguyen, ancien de la Caisse des dépôts. Un aéropage qui va aider la candidate à réviser ses fiches, même si, selon l'un de ses conseillers, ce n'est plus de technique dont Marine Le Pen a aujourd'hui besoin, c'est d'une préparation psychologique, presque un entraînement sportif.
On évoque régulièrement dans cette campagne le père de Marine Le Pen, Jean-Marie. Il sera à l'Élysée si je suis élu, disait-elle il y a quelques jours. Celui d'Emmanuel Macron est beaucoup plus discret. Il s'exprime aujourd'hui dans les journaux du groupe Ebra comme l'Est républicain. J'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont Emmanuel dirige l'État actuellement, dit son père Jean-Michel Macron. Je trouve qu'il faut avoir beaucoup de courage et que les Français sont très ingrats, mais ce n'est pas nouveau. Fin de citation. Ces derniers jours, les deux candidats, et on l'a souligné ici même, ont changé leur programme par rapport à celui qu'ils présentaient au premier tour. Comment cela se traduit-il dans les professions de foi? Elles sont en train d'être distribuées. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Vous les avez lues pour nous. Dites-nous ce qui vous a frappé.
D'abord dans la forme, l'image en une change, mais pas le slogan pour Emmanuel Macron. Une photo du président candidat au milieu de la foule, micro à la main, en plein discours, remplace le gros plan choisi lors de la profession de foi du premier tour. Pour Marine Le Pen, tout est remanié. Elle est photographiée debout devant un bureau à la manière d'Emmanuel Macron sur son portrait officiel de l'Élysée. Une photo épurée, tout comme les trois pages qui suivent, le nom de la candidate d'extrême droite n'est même pas mentionné une seule fois dans cette profession de foi.
Et qu'en est-il des mesures proposées?
Elles sont identiques pour Emmanuel Macron. La réforme des retraites est toujours là, et toujours à 65 ans. Le pouvoir d'achat puis l'écologie diluée dans la première profession de foi deviennent les deux premières propositions citées par le président candidat. Alors c'est un détail, mais la question de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est plus visible dans la nouvelle mouture. Du côté de Marine Le Pen, les quatre pages sont plus limpides comparées à la première version, avec une chronologie des mesures prises si elle est élue lors de la première année de son mandat. Lors de l'une de ses nouvelles propositions phares apparaît, la suppression de la TVA sur 100 produits essentiels, alimentaires et d'hygiène. Enfin, l'un et l'autre n'oublient pas d'attaquer leur adversaire. Marine Le Pen critique le bilan et le programme du président sortant. Quant à Emmanuel Macron, il utilise une page entière pour se comparer à sa concurrente.
Les professions de foi des candidats avant et après le premier tour. Votre article, Victor Vasseur, à lire sur France Inter. On s'arrête maintenant comme tous les jours dans ce 13-14, sur l'un des points de ces deux programmes. C'est notre comparatif consacré aujourd'hui aux questions d'immigration. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
On démarre avec la candidate du Rassemblement National qui souhaite un référendum sur le sujet.
Oui, avec pour objectif de faire inscrire les mesures dans la Constitution et que, dit la candidate, le droit français prime sur l'international. Parmi ces mesures, on trouve ce que Marine Le Pen appelle la priorité nationale, que les Français soient prioritaires pour l'accès à l'emploi ou au logement, ou réserver les allocations familiales aux personnes de nationalité française. Elle veut aussi supprimer le droit du sol et interdire la régularisation d'étrangers en situation irrégulière, sauf cas exceptionnel soumis au Conseil des ministres. Précisons que pour arriver à réformer la Constitution, Marine Le Pen doit voir son texte validé dans la même version par le Sénat et l'Assemblée nationale.
Et qu'en est-il du projet en la matière d'Emmanuel Macron ?
Alors, beaucoup de choses dans la continuité des annonces faites pendant le mandat actuel, comme la volonté d'expulser les étrangers dont les autorités considèrent qu'ils troublent l'ordre public, ce qui est d'ailleurs un projet partagé par sa rivale. Que la réponse aux demandes d'asile soit plus rapide et en cas de rejet prononcer une obligation de quitter le territoire, encore faut-il que le pays d'origine accepte ses retours. Pour le reste, Emmanuel Macron veut soumettre l'obtention d'un titre de séjour long, plus de 4 ans, à un examen de français et à des démarches professionnelles, un contrat de travail ou une formation. Le candidat dit aussi vouloir créer une force des frontières qui regrouperait les soldats de Sentinelle, la police de l'air et des frontières et les gendarmes, les forces mobiles.
Ariane Grissel pour ce comparatif des programmes consacrés à l'immigration. Et à 13h30, Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen, est notre invité. Vous pouvez d'ores et déjà lui poser vos questions au 01 45 20 24 7000. Ce matin, quelques lycées de Paris et de la région Île-de-France ont été bloqués par des élèves, des rassemblements. 150 lycéens, par exemple, en ce moment devant le lycée Louis-le-Grand à Paris, rassemblement pour demander que les thèmes du climat et des inégalités soient plus présents dans cette campagne. En Occitanie, c'est une décision de la présidente socialiste de la région, Carole Delga, qui fait débat avec ce message posté dimanche soir sur le réseau social Twitter. Dimanche prochain, tous aux urnes pour barrer la route à l'extrême droite. Allez-y, en train ou en car, c'est gratuit. Voilà ce qu'écrit Carole Delga. Et en effet, pour faciliter l'accès aux bureaux de vote, ces transports régionaux seront gratuits ce dimanche. Tous les électeurs, quel que soit leur vote, pourront en bénéficier. Mais le message de la présidente socialiste fait réagir. Dans la région, le RN dénonce l'instrumentalisation des transports publics à des fins électorales. Marion Chantreau.
Julien Sanchez, conseiller régional RN, l'accuse de basculer dans le militantisme et de ne pas respecter la neutralité attendue selon lui de la part d'une présidente de région. Le conseiller LR Sacha Briand est à peu près du même avis.
Elle lance un appel à faire barrage à l'extrême droite en utilisant cette mesure de gratuité. Ça pourrait donner le sentiment aux gens que le système se met en place pour faire barrage à Marine Le Pen. C'est très discutable, ça peut être contre-productif. Et puis, le Parti Socialiste pourrait très bien faire du covoiturage entre militants pour aider les gens qui auraient des difficultés à se déplacer. Utiliser les ressources régionales pour lancer un appel à voter dans un sens particulier, c'est très critiquable.
Jean-Luc Giblin, vice-président communiste du Conseil régional en charge des transports, tente de temporiser après ce tweet de Carole Delga.
C'est un choix pour marquer aussi un engagement vis-à-vis de l'importance de ce vote. Je crois qu'il est important d'utiliser, moi pour ma part je le partage, le bulletin qui sera à disposition, mais ça ne signifie pas un soutien ni une adhésion au test politique du candidat Macron.
En Occitanie, l'abstention a atteint près de 22%. Au premier tour, Marine Le Pen est arrivée en tête.
Et pour le train, la réservation se fait par téléphone. Pour le car, la présentation de la carte électorale suffit. La gauche, elle, prépare les élections législatives. Première rencontre entre insoumis et communistes hier. Le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou lui dit accepter une rencontre avec la France Insoumise pour discuter de candidatures communes. Chez les Verts, on n'en est pas là. L'heure est plutôt règlement de compte après la campagne terminée par Yannick Jadot à 4,6%. Loin des objectifs, l'aile gauche d'Europe Écologie Les Verts a bien l'intention de secouer la direction du parti. Antoine Gignot, elle demande l'ouverture de discussions rapides avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon.
Ce sont les attaques répétées contre Jean-Luc Mélenchon qui fragilisent nos possibilités d'alliance avec la France insoumise, expliquent les auteurs du texte. Comment imaginer une discussion apaisée avec nos partenaires si ce sont les mêmes qui restent aux manettes ? Alain Coulombelle et la frange la plus à gauche des Verts mettent en cause la direction du parti et les cadres chargés de négocier les alliances avec d'autres formations politiques. En face, Julien Bayou reste stoïque. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts promet de tenir compte de toutes les sensibilités.
Je ne vois pas de vraie fragilité. facture. Le fait de mener campagne, le fait de soutenir Yannick Jadot n'a jamais été remis en cause. Après, certaines personnes veulent faire le bilan, c'est nécessaire. C'est un échec, cette campagne. Maintenant, on se prépare les législatives. On a eu un conseil fédéral où justement l'ensemble du mouvement disait qu'il fallait pouvoir ouvrir des discussions avec l'ensemble des forces de gauche. Donc à commencer par la France Insoumise parce qu'ils sont arrivés en tête. Et je veux voir dans les petits courriers publiés dans la presse, le fait qu'ils souhaitent participer aux négociations.
Des discussions qui pourraient s'accélérer dans les jours qui viennent. Les délais de fabrication des affiches, de la propagande électorale, précise la direction du parti, obligent à prendre des décisions avant la fin de la semaine prochaine, avec ou sans la France Insoumise.
Antoine Gignot, c'est un mode de transport régulièrement dénoncé par les écologistes, les avions low cost qui ont favorisé l'explosion du trafic aérien. Un secteur dans lequel les salariés semblent décidés à se faire entendre. Les mouvements de grève se multiplient. Ces dernières semaines, conséquence, la compagnie Vueling va augmenter les salaires de 150 euros bruts pour tous les salariés. Ryanair a même ouvert des négociations avec ses pilotes, ce qui était il y a peu inenvisageable. En revanche, la compagnie espagnole Volotea, elle n'a pas pris au sérieux les préavis déposés. Et Philippe Lefebvre, cela s'est transformé en week-end galère pour les voyageurs qui l'avaient choisi pour leur week-end de Pâques.
Oui, dès le mois de décembre dernier, la reprise du trafic aérien s'est accompagnée des premières hausses autour de 5% en moyenne. Et cela s'est poursuivi au même rythme en janvier car il y avait de la demande et moins d'avions qu'en temps normal. Et puis en février, selon le baromètre de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la hausse moyenne a été de 7%, voire de 8% pour les vols à destination des départements d'outre-mer. Et cela ne devrait pas s'améliorer dans les mois qui viennent puisque pour compenser l'explosion du prix du carburant lié cette fois à la guerre en Ukraine, des compagnies, y compris françaises, pourraient annoncer des hausses de 15 à 20% des prix des billets dans les prochaines semaines. Des augmentations inévitables selon elle, car le carburant représente un quart du coût d'un vol. Alors, toutes les compagnies ne devraient pas appliquer les mêmes augmentations, car certaines, généralement les plus grosses, ont préacheté du carburant avant la guerre en Ukraine et donc à des tarifs plus bas qu'aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que si vous avez déjà acheté vos billets, la compagnie aérienne ne peut pas vous réclamer de supplément lié à la hausse du prix du kérosène.
Demandez-vous toujours votre ticket de caisse quand vous faites les courses? Eh bien, si c'est le cas, sachez qu'à partir de l'an prochain, les commerçants ne seront plus obligés de vous le proposer. Les consommateurs ne seront informés que par des affiches en caisse, tout cela pour limiter les déchets, mais de nombreuses associations de consommateurs s'opposent à cette suppression par défaut du ticket de caisse. Elles estiment qu'il doit être proposé car il est un outil, je cite, de gestion du budget des familles. C'est une annonce qui avait fait l'effet d'une bombe en 2018. Un biophysicien chinois, He Jiankui, affirme qu'il a modifié in vitro des embryons pour les rendre résistants au VIH. Les premiers bébés génétiquement modifiés. Cette première qui lui vaut une condamnation internationale et une incarcération en Chine. Aujourd'hui, ces bébés, trois petites filles, ont 3 ans. He Jiankui vient de sortir de prison il y a quelques jours. Personne ne sait où il se trouve et en Chine, des voix demandent qu'un centre de recherche spécial soit créé pour assurer le bien-être de ses enfants. Bonjour Sophie Bécherel.
Bonjour.
Le débat est extrêmement vif.
Oui, ce sont deux éthiciens chinois, dont l'un de l'Académie des sciences morales de Pékin, qui l'ont lancé en janvier à travers un document. Pour eux, ces trois fillettes, dont on ne sait rien, ni où elles vivent, ni leur état de santé, ces fillettes constituent un groupe vulnérable. Elles doivent à ce titre être protégées. Elles ont droit à la santé, au respect de la vie privée, à la dignité humaine, à la non-discrimination. La création d'un centre de soins et de recherche spécifique permettrait, selon ces éthiciens, d'effectuer un séquençage régulier de leur génome pour surveiller qu'il n'est pas altéré au fil de leur croissance. Ce suivi devrait aussi concerner leurs descendants. C'est un fait que la technique d'édition du génome CRISPR-Cas9, qui a valu un prix Nobel à ses deux inventrices, dont la française Emmanuelle Charpentier, cette technique peut provoquer des anomalies inconnues quand il est pratiqué sur l'embryon. L'expérimentation avait engendré un tollé, vous l'avez dit, et conduit à un moratoire international. Pour les chercheurs chinois, il s'agit cependant d'y voir clair dans la pagaille génétique engendrée par leurs compatriotes apprentis sorciers. Et si la Chine en débat, notamment au sein des universités, c'est que le pays investit beaucoup pour devenir numéro un mondial de la recherche en sciences de la vie et il se sait regardé par la communauté internationale.
Alors, comment ces propositions sont-elles accueillies par ceux qu'on appelle les éthiciens, les spécialistes de l'éthique ailleurs dans le monde ?
Alors, il y a un débat international et ces éthiciens sont unanimes sur le fait que les fillettes ont droit à une enfant enfance normale. Le problème est de suivre leur santé sans en faire des animaux de laboratoire. Leur génome pourrait être analysé à partir d'un simple prélèvement de salive, mais si on multiplie ces prélèvements et les examens au cours de leur vie, si en clair les scientifiques cherchent à assouvir leur curiosité naturelle, ils se retrouvent sur un fil. Les enfants seront stigmatisés. Le débat est délicat car pour certaines maladies du sang, cette technique d'édition du génome a fait ses preuves, mais on parle là d'une personne déjà née et dont les gènes sont défaillants.
Explication de Sophie Becherel. Dans l'actualité internationale également, le retour des attentats en Afghanistan. Après plusieurs semaines de calme, deux explosions ce matin contre une école pour garçons à Kaboul, école fréquentée par la minorité chiite. Dernier bilan, 6 morts et 11 blessés. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa déclare l'état de catastrophe nationale suite aux inondations qui touchent la région de Durban sur la côte est, des pluies diluviennes qui ont provoqué crues et glissements de terrain, au moins 443 morts selon les autorités de la région et de graves pénuries d'eau et d'électricité. Il était l'un des plus grands pianistes de la scène classique mondiale. Nicolas Angelich est décédé hier à l'âge de 51 ans. Il souffrait d'une maladie respiratoire. Angelich était américain, mais il vivait à Paris. Il avait donné son premier concert à l'âge de 7 ans seulement, avant d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Paris à 13 ans. Beethoven, Liszt et Brahms étaient ses compositeurs fétiches. Ici le concerto pour piano numéro 1 de Brahms avec l'Orchestre de Paris en 2014. Nicolas Angelich avait reçu deux victoires de la musique classique. Et puis autre disparition d'un autre très grand pianiste, le roumain Radu Lupu, âgé de 76 ans. Plus que quelques heures pour en profiter si vous habitez en bord de mer, le long de la Manche ou de la mer du Nord, les grandes marées depuis ce week-end avec des coefficients qui dépassent encore aujourd'hui les 100. C'est le cas notamment en baie de Somme, complètement sous l'eau à marée haute, avec évidemment beaucoup de monde, Lila Lefebvre, pour assister au spectacle.
À la pleine mer, l'eau rase la jetée du Crotoy. Les prés salés sont devenus un lac.
Mais c'est magnifique.
C'est magnifique.
Super beau,
ouais.
Super beau.
Une troupe de curieux s'est installée sur l'écluse pour assister à la montée des eaux où un torrent d'eau de mer essaie de gagner les prés.
On a vu ça très bas ce matin, puis on voit un peu plus haut cet après-midi. Donc c'est très, très joli à voir.
Mais assez, oui, bah surtout à cet endroit-là, de voir tout le flux de courant qui passe sous le pont. Là, on a vu depuis le début de la journée, comme ça avait bien monté, effectivement.
Une montée rapide de la mer qui a surpris Virginie et son papa Bruno, venu de Dunkerque.
On était étonnés parce qu'on était en train de manger au restaurant et la marée était très très loin. Et puis d'un coup, on voit un bateau passer, venant de là, on se dit c'est pas possible.
Parce qu'il est sur roulette.
Enfin voilà, il est sur roulette, il est en dehors de l'eau. Ce bateau qu'on comprenait pas de où il sortait, on n'a pas compris que la mer montait aussi vite.
La petite famille attend maintenant la marée basse pour randonner et tenter d'apercevoir des phoques. Mais avec une telle vitesse de montée des eaux, ils ont pris leurs précautions.
Il faut prendre un guide quand même pour aller dans la baie de Somme, hein, parce que c'est un peu dangereux quand même si on se promène tout seul.
Enfin, elle descend et elle monte la mer. Là, c'est vraiment très, très, très important.
Il faut mieux se renseigner.
Et vous pourrez encore profiter du spectacle jusqu'en milieu de semaine.
Reportage Lila Lefebvre de France Bleu Marée Haute autour de 14h30 hein, cet après-midi au Crotoy. Respectez évidemment les règles de prudence pour ne pas être surpris par les flots. Ce qui est arrivé ce week-end à plusieurs promeneurs piégés à Étretat en Seine-Maritime ou encore à Trégastel dans les Côtes d'Armor. Grande marée, avec quel temps? On voit ça dans un instant.
Les viandes de bœuf label rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
C'est l'époque qui veut ça, on veut tout, tout de suite. Mais pour faire une bonne viande de bœuf label rouge, pas question de la jouer en accéléré. Les bêtes, il faut leur laisser le temps de brouter l'herbe des prés, au grand air, année après année, dans des fermes familiales. Et pour la viande, c'est pareil, 10 jours de maturation lente, minimum. Et là, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse?
Non, non, prof de yoga. Mais je regarde ce que je mets dans mon assiette, pas vous?
Les viandes de bœuf label rouge, le plaisir de manger mieux.
Le temps avec Élodie Calac.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Bonjour Elodie.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Pluie sur le sud-ouest et soleil à l'est.
Oui, alors entre la vallée du Rhône, les Alpes, la Corse, c'est du soleil. Un soleil un peu voilé du Lyonnais vers le nord-est. Ailleurs, on a un ciel souvent changeant qui hésite entre éclaircies, nuages, quelques averses possibles. Et puis un ciel bien perturbé sur le sud-ouest, entre les Pyrénées et l'Aquitaine, des pluies régulières, durables. Quelques pluies débordent aussi vers le Roussillon, vers le Limousin, vers les Charentes. C'est de la neige au-dessus de 1000 mètres sur l'ouest des Pyrénées. Les températures, elles baissent sous la pluie du sud-ouest. On attend seulement 11 degrés à Pau, 12 à Biarritz, 14 à Brest, à Deauville, 17 au Mans, à Cognac ou à Clermont-Ferrand, 19 à Lille, Paris et Nancy, 21 à Grenoble et 24 à Marseille. Et puis demain, ce sera bien perturbé au sud, mais plus calme au nord avec des éclaircies.
Merci à vous, Elodie Calac, Météo France. Il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
À 5 jours du second tour de l'élection présidentielle, le 13-14, vous propose d'interroger les soutiens des deux candidats avant de nous pencher sur le programme et la campagne d'Emmanuel Macron demain. Nous nous intéressons aujourd'hui au projet porté par Marine Le Pen. Politique étrangère, institutions, emploi, protection de l'environnement. Quel changement entraînerait ce projet pour le pays et pour vous si Marine Le Pen était élue présidente de la République dimanche soir? Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et porte-parole de Marine Le Pen, est notre invité. Bonjour à vous.
Bonjour monsieur.
Merci d'être là dans ce 13-14. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 et via l'application France Inter. Quelques questions liées à l'actualité en Ukraine, si vous le voulez bien, Sébastien Chenu, pour débuter. Nouvelle phase dans l'offensive menée par la Russie avec la poussée des Russes dans l'Est, dans le Donbass. Est-ce que cela doit conduire à de nouvelles sanctions selon vous ?
Probablement, il faut d'abord condamner, Marine Le Pen a condamné très fermement cette avancée russe dans le Donbass. C'est probablement qu'il faut aller vers des sanctions. Encore une fois, partout, on peut prendre des sanctions qui viennent sanctionner, abîmer l'action de Vladimir Poutine. Eh bien, il faut le faire parce qu'il faut que cette guerre s'arrête. Mais cette guerre ne s'arrêtera qu'avec la diplomatie. Il faut le savoir. Les sanctions mettent une certaine pression. Nous souhaitons des sanctions qui, évidemment, n'aient pas d'impact sur le peuple français, parce que ce serait évidemment contre-productif pour les Français. Il faut des sanctions qui vraiment gênent Vladimir Poutine et son régime, mais il faut surtout que des négociations diplomatiques, le plus rapidement possible, s'opèrent. Ça veut dire qu'en réalité, l'action qui consiste à parler à Vladimir Poutine chaque jour, comme le fait Emmanuel Macron, elle est nécessaire.
Plus depuis les massacres de Boutcha, disait le président de la République.
Oui, mais à un moment, il va bien falloir que la solution soit diplomatique, sinon c'est la guerre. Mmh. Donc la diplomatie, toujours la diplomatie, encore la diplomatie, il faut que cette guerre cesse.
En 2014, Marine Le Pen estimait que l'annexion de la Crimée n'était pas illégale. Pourquoi celle du Donbass le serait à vos yeux aujourd'hui ?
Mais parce qu'elle est dans un schéma qui est celui de Vladimir Poutine, qui est celui d'une avancée permanente, et on le voit bien parce que
le Crimée aussi.
Non, c'était pas exactement pareil, mais le Donbass, vous savez bien qu'au Donbass, il y a une partie du Donbass qui réclame d'ailleurs son rattachement à la Russie de Vladimir Poutine, que c'est évidemment très complexe, mais derrière il y a une logique.
Sur quelle base est-ce que vous pouvez dire ça ? C'est pas simple. On n'a pas consulté les habitants
du Donbass. Non, mais il y a en tous les cas une logique qui est celle de l'impérialisme en fait russe de Vladimir Poutine, pardon. On le voit bien, cette logique impérialiste, on peut pas l'accepter. Enfin, je veux dire, l'Europe ne peut pas l'accepter. Non, ça va crescendo.
Un dernier mot sur la politique étrangère, Sébastien Chenu. Marine Le Pen a eu des mots très durs envers l'Allemagne. L'Allemagne s'affirme comme le négatif absolu de l'identité stratégique française. Elle veut mettre un terme à tous les programmes franco-allemands en matière de défense. Est-ce que cela vaut pour d'autres pays ou uniquement pour l'Allemagne? Et si oui, pourquoi?
Parce que en fait, il faut bien voir que nos intérêts en matière de défense, parce qu'à côté de ça, on veut développer tout ce qui est coopération franco-allemande, que ce soit l'apprentissage de la langue, les échanges, qu'ils soient culturels, qu'ils soient scientifiques, etc. Mais en matière de défense, l'Allemagne s'est placée sous la protection de l'OTAN. C'est un choix qu'elle a fait il y a très longtemps de dénucléariser. Et en se plaçant sous la protection de l'OTAN, bien sûr, c'est un choix qu'elle a fait, un choix politique, historique. Nous, on a fait d'autres choix. Mais en se plaçant sous la protection de l'OTAN, finalement, elle est un peu à la remorque des États-Unis. Et donc, on est en divergence avec l'Allemagne en ce qui concerne la politique de défense. Nous considérons que la politique de défense, elle doit rester française, que l'armée française doit être commandée par des militaires français. C'est parce que nous avons
C'est le cas aujourd'hui.
Parce que nous avons l'arme nucléaire, parce que nous avons un format d'armée complète, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Et donc, ça veut dire que les coopérations en matière de défense.
S'arrête.
Avec l'Allemagne, elles n'ont pas vocation d'être. Elles ont vocation à continuer dans l'ensemble des autres domaines, évidemment. Je vous rappelle que l'Allemagne est notre premier partenaire commercial.
C'est ce que j'allais vous dire, c'était très mal perçu à Berlin, ces propos. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, dans les échanges commerciaux entre les deux pays?
Mais parce que Berlin a une logique qu'on connaît depuis longtemps et que je peux respecter, hein, c'est la logique de la défense des intérêts des Allemands. Eh bien, moi, j'aimerais que demain, on ait un président qui ait comme logique la défense des intérêts des Français.
Question de Marie-Laure au Standard de France Inter. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors voilà ma question. Le Rassemblement national parle depuis longtemps de la suppression du voile musulman dans les lieux publics, notamment. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est du foulard porté par les catholiques, puisque à mes yeux, ce foulard catholique est assimilable au voile musulman. Merci.
Alors, réponse de Sébastien Chenu.
Bonjour madame, et je crois qu'il ne faut pas se méprendre. Notre but n'est pas d'enlever un morceau de tissu de la tête des femmes, qu'elles soient musulmanes ou catholiques. Notre but est de lutter contre l'islamisme, c'est-à-dire une idéologie qui cause des morts, qui a causé des morts dans notre pays, une idéologie qui soumet la femme et dont l'emblème est ce foulard islamique, autrement dit hijab d'ailleurs, puisque l'emblème islamiste en ce qui concerne ce foulard, c'est le hijab. Mais bien entendu, pour lutter contre l'islam radical. D'abord, on a besoin de tout le monde. On a besoin de nos compatriotes musulmans. Mais surtout, il faut supprimer les financements, fermer les mosquées radicales, interdire le salafisme dans notre pays. Je me souviens d'ailleurs que l'interdiction du salafisme, c'était quelque chose qui, à l'époque, vous allez voir, avait été réclamé par Nathalie Kosciusko-Morizet. On peut interdire, hein, d'ailleurs, des idéologies très néfastes dans les pays. En France, c'est le cas. Il y a des idéologies qui sont interdites. Le Parlement sait très bien faire. Et l'emblème, c'est le foulard islamique, c'est le hijab. Et c'est celui-ci que nous combattons parce qu'il soumet la femme, il l'enferme, et parfois même contre son gré, sous des pressions qui sont parfois familiales, affectives, communautaires, c'est ça. Et on a besoin d'une loi pour faire ça.
Donc le port du voile sera interdit dans l'espace public ?
Oui, on a besoin d'une loi pour faire ça. Mais je vais vous dire, c'est...
Ce sera écrit dans la loi, ce sera interdit.
Oui, le port du voile islamique, qui est l'emblème de l'islamisme, de l'islam radical, sera interdit.
Parce que Marine Le Pen ne savait pas dire hier si c'était oui ou si c'était non.
Mais si, mais surtout, le Parlement va voir la mise en œuvre. Vous savez, le Parlement a très bien su créer des lois pour contrôler les gens qui sortaient de chez eux à moins de 5 km, etc. Le Parlement sait très bien faire ça. Mais n'oublions pas, l'objectif principal, c'est la lutte contre l'islamisme et c'est libérer les femmes de ce pouvoir qui, islamiste encore une fois, les contraint et les enferme.
Et pour répondre à Marie-Laure, les foulards portés par les sœurs catholiques ?
Non, mais ça n'a pas de lien, c'est pas l'islamisme, les foulards portés par les sœurs catholiques. Et j'ajoute d'ailleurs que le personnel
donc
religieux...
Donc pas d'interdiction pour les autres signes religieux des autres religions.
Aucun problème avec le personnel religieux, quel qu'il soit. Le personnel religieux, c'est le personnel religieux. Il n'y a pas de problème avec ça.
Et port de la kippa aussi autorisé dans l'espace public.
Mais ce n'est pas l'islamisme. Nous luttons contre l'islamisme. On ne lutte pas contre une religion, on ne lutte pas contre l'islam. On lutte contre l'islamisme. C'est ça qui cause des morts dans notre pays.
Michel est avec nous. Bonjour Michel.
Oui, bonjour France Inter. Merci pour la qualité de vos émissions et merci de me donner l'antenne. Je souhaiterais poser une question au représentant de Marine Le Pen parce que celle-ci est en train d'essayer de triturer, je dis bien triturer, la Constitution. Est-ce que votre invité a réellement compris que le recours proposé par Marine Le Pen au référendum de l'article 11 de la Constitution est inconstitutionnel, puisque tous les spécialistes du droit constitutionnel de gauche et de droite l'affirment? Et deuxièmement, sera-t-il en mesure, je dis bien, sera-t-il en mesure d'expliquer aux auditeurs de France Inter la confusion qui est faite volontairement par Marine Le Pen entre les articles 11 et les articles 89 de notre Constitution actuelle, qui actuellement, je le dis haut et fort, a pour but essentiel de protéger nos libertés publiques. Merci France Inter pour la qualité de vos émissions. Je renouvelle mes félicitations.
Sébastien Chenu, merci Michel, vous répond.
Bonjour monsieur. D'abord, je ne crois pas qu'il faille craindre quoi que ce soit avec le référendum. Vous savez, nous, notre objectif, et on n'a jamais essayé ça dans notre pays, notre objectif, c'est d'oxygéner la démocratie, c'est de recréer du lien entre le peuple, rappelons-nous des Gilets jaunes, hein, qui ont tellement manifesté, recréer du lien entre ceux qui nous dirigent et les Français. C'est une nécessité, d'ailleurs il y a d'autres leviers, hein. La proportionnelle en fait partie aussi, et parmi ces leviers-là, il y a le référendum. Pour le référendum, il faut évidemment faire une modification constitutionnelle, mais une révision, ce n'est pas une remise en cause de la Constitution. Il y a eu 3 révisions en 20 ans de la Constitution, donc ce n'est pas une remise en cause de la Constitution. On fait une modification pour donner plus de parole aux Français.
Mais on ne peut pas le faire uniquement en passant par le référendum. Les spécialistes du droit constitutionnel sont unanimes sur ce point.
Non, ils ne sont justement pas unanimes. Le professeur Cambi, là j'ai noté, la professeure Calves, et l'AFP a très bien repris ça d'ailleurs, l'agence France-Presse a très bien repris les propos de ces éminents juristes en droit public, constitutionnalistes, etc. Il y a un débat qui montre que l'article 11 de la Constitution, celui utilisé par le général de Gaulle, et je renvoie également à d'autres écrits d'autres intellectuels ces jours-ci, eh bien cet article-là, il permet de modifier ceci. Vous savez, dans la Constitution, il est déjà écrit que la souveraineté, elle appartient au peuple français à travers ses représentants et à travers l'utilisation du référendum, l'usage du référendum. Donc oui, il y a beaucoup de pays d'ailleurs qui utilisent le référendum, ce ne sont pas des dictatures, ce ne sont pas des régimes autoritaires.
C'est pas la question de l'utiliser ou pas, c'est la question de l'utiliser pour changer la Constitution, c'est d'en passer par un vote de l'Assemblée nationale, puis par un vote du Sénat pour modifier la Constitution.
D'abord, changer la Constitution pour permettre une utilisation plus importante du référendum. On peut le faire, article 11. Ensuite, le référendum d'initiative citoyenne. Il ne pourra pas changer la Constitution. Il ne pourra pas changer la Constitution, comme il ne pourra pas changer la peine de mort. Il y a un article dans la Constitution, l'article 66.1, qui l'empêche, je le dis, parce qu'il y a souvent des gens qui agitent des fantasmes, mais pas du tout. Il ne pourra pas changer
la préférence nationale, par exemple, elle n'est pas aujourd'hui permise par la Constitution. Alors, donc c'est pour ça que vous voulez la changer.
Voilà, il ne pourra pas, mais on demandera l'avis des Français. Hein, c'est ça, notre référendum. Il ne changera pas non plus l'appartenance à l'Union européenne. L'article 88.1, il ne s'agit pas de modifier ces articles-là. Il s'agit de pouvoir ensuite faire un référendum pour demander aux gens, aux Français, on leur a jamais demandé leur avis sur ce qu'ils pensent de la politique migratoire que nous leur proposons. Parce que nous souhaitons que ce soit les Français qui la valident, cette proposition. Et d'abord qu'il y ait des débats sur ces sujets-là, c'est plutôt sain dans une démocratie.
Éclaircissement sur le programme de Marine Le Pen avant ce second tour, Sébastien Chenu. Vous nous avez dit il y a une minute, oui, nous interdirons le port du voile. Donc ça, précision.
Le voile islamique, je pense qu'il faut que les choses soient très précises. Le port du foulard islamique. Je vous ai même parlé du hijab, qui est très défini d'ailleurs. Mais le Parlement saura le définir, mais le hijab, le voile islamique, l'instrument de l'islamisme dans notre pays.
C'est-à-dire que vous faites la différence avec le voile que porte le Parlement va
définir. Le Parlement va définir ce qu'est le voile islamique. Vous savez que dans notre dans notre droit, il est tout à fait possible, parce que ça existe déjà, de définir facile de définir, parce que ça se fait déjà dans le droit, les outils, les représentations d'idéologies qui sont interdites. Et bien donc, le Parlement définira la représentation de l'islamisme qui est interdite dans notre pays.
Mais avec quels critères? Comment on va distinguer un voile d'un autre? Les policiers et les gendarmes qui vont devoir faire appliquer la loi dans la rue.
Mais bien entendu, c'est le rôle du Parlement. Pourquoi d'ailleurs c'est le rôle du Parlement? Parce que le Parlement, on veut qu'il soit représentatif, on souhaite que ce débat, il s'instaure dans la société française.
J'ai essayé d'avoir plus de précision.
C'est déjà le cas dans la loi. Représentations d'idéologie interdites dans notre pays sont déjà codifiées.
Autre demande de précision, Sébastien Chenu, sur la question des éoliennes. Louis Alliot, hier matin sur France Inter, nous dit l'idée n'est pas de les démanteler. Et hier midi, Marine Le Pen explique sur France Bleu qu'elle engagera le démantèlement des éoliennes une fois élue. Qui croire?
Non mais encore une fois, moi je pense qu'il ne faut jamais oublier quel est l'objectif. À chaque fois, j'ai repris, suite à vos questions, l'objectif à atteindre.
C'est intéressant.
L'objectif à atteindre, non mais il ne faut pas se noyer dans de la technique, il faut garder l'objectif, c'est sur ça qu'on est jugé. L'objectif à atteindre, c'est qu'il n'y ait plus d'éoliennes dans notre pays. Pour quelle raison? Ça coûte très cher, ce n'est pas efficace. Je vous rappelle que lorsque l'éolien ne fonctionne pas, dans 70% des cas, ce sont des énergies polluantes.
C'est 7% du mix énergétique français aujourd'hui.
Oui, mais ce sont des énergies polluantes qui viennent prendre le relais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'autres types d'énergie, notamment sur l'hydrogène. Nous, on pousse beaucoup sur l'hydrogène. Je pense que ça abîme les paysages, ça abîme les fonds marins, c'est très laid. Bon, on mène le combat contre l'éolien. Mais une fois que les éoliennes sont implantées, vous savez très bien qui doit les démonter au bout de 10 ans. Ce sont les communes, les petites communes, parce que c'est souvent dans la ruralité, qui se retrouvent à devoir les démonter. Donc une fois que les éoliennes, ça dure à peu près 10 ans une éolienne, sont hors de service, nous demanderons que les entreprises qui ont bénéficié de fonds publics en assurent le démontage.
Vous ne les démontez pas à l'automne si Marine Le Pen est élue.
Gens tout à fait raisonnables. Nous souhaitons qu'il n'y ait plus d'éoliennes, c'est-à-dire arrêter de subventionner des nouveaux champs d'éoliennes. Et lorsqu'elles arrivent en fin de vie, les entreprises qui ont touché de l'argent public assurent le démontage pour pas que ça retombe sur le dos des petites mairies.
D'accord, en fin de vie et donc pas immédiatement une fois
ça
que...
Ça ne pourra pas se faire en un mois. Malheureusement, moi j'aimerais bien, vous savez, qu'on se débarrasse des éoliennes plus rapidement.
Question de Louis qui nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Louis.
Oui, bonjour aux journalistes de France Inter. Merci de prendre ma question. Donc bonjour monsieur le député.
Bonjour monsieur.
Merci. La question est la suivante. Marine Le Pen est élue dimanche prochain. Est-ce qu'elle a les femmes et les hommes derrière elle pour diriger la France? Je pense au gouvernement et les postes importants de l'État.
Merci monsieur de cette question, parce que je vois que beaucoup s'inquiètent de cela. Vous savez, moi lorsque j'ai regardé qui était le ministre d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu, j'étais sur ma chaise et j'ai découvert qui étaient Frédéric Vidal, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et quelques autres, Jean-Michel Blanquer, dont je n'avais jamais entendu parler. Ces gens ont pris une notoriété parce qu'ils sont entrés dans la lumière de leur fonction. Et bien autour de Marine Le Pen, vous avez des gens qui ont peut-être pas de notoriété aujourd'hui, qui en auraient demain. Vous avez des gens qui ont une petite notoriété parce qu'ils sont parlementaires. Je pense à Jean-Paul Garot, qui est un magistrat qui a été député de Gironde. Je pense à Hervé Juvin, qui est un économiste qui a commencé sous Raymond Barre et qui est aujourd'hui parlementaire européen. Vous voyez, ce sont ces gens-là. Et une deuxième chose, Marine Le Pen s'est toujours astreinte à faire éclore une génération politique. Le plus jeune député européen, Bardella, la plus jeune députée, Marion Maréchal, le plus jeune sénateur, David Rachline. Eh bien, elle va se contraindre aussi à faire éclore une nouvelle génération d'hommes et de femmes compétents.
Dernière question, Sébastien Chenu. Votre projet pour l'éducation et pour le collège. J'ai lu que vous étiez pour la fin du collège unique.
Oui.
Ça veut dire orientation beaucoup plus jeune des jeunes français.
Oui, parce que souvent, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, quand c'est possible, les jeunes arrivent un peu trop tard à la nécessité de pouvoir choisir leur choix d'orientation professionnelle. On pense qu'il faut le plus tôt possible permettre aux jeunes de pouvoir être bien orientés. C'est l'une des possibilités pour que la formation professionnelle et l'apprentissage deviennent des outils qui soient vraiment en lien avec les besoins en emploi.
Donc dès la quatrième en entreprise ?
En entreprise, vous savez qu'il y a des systèmes qui permettent de faire d'abord des stages en entreprise, puis de commencer à s'ouvrir à la vie de l'entreprise. Il faut aller beaucoup plus vers là. L'Allemagne, dont vous parliez tout à l'heure, est d'aller beaucoup plus loin que nous sur ça. Vous voyez que c'est intéressant parfois, l'Allemagne, pas toujours sur la défense, parfois sur l'éducation.
Merci à vous Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen, député du Rassemblement National, invité de ce 13-14. Demain, nous décortiquerons le programme d'Emmanuel Macron avec la députée Yaël Braun-Pivet qui sera notre invitée.
France Inter, le 13-14.
Au programme jusqu'à 14h, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Jérôme Cadet.
On a parlé de référendum, je crois qu'on va en reparler avec vous.
Retour sur l'histoire des référendums, en France et ailleurs.
Une semaine dans leur vie, le feuilleton du 13-14 dans 5 minutes à Châteaudun, en Eure-et-Loire, commune qui depuis près de 20 ans vote comme le reste du pays. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Jérôme.
C'est le choix musical de l'autrice et metteuse en scène Salomé Lelouch. Aujourd'hui, la pièce Snow Therapy qu'elle met en scène est donnée à partir de ce soir au Théâtre du Rond-Point à Paris.
Une pièce adaptée du film Snow Therapy, prix du jury à Cannes en 2012. Sur scène, on retrouve notamment Alex Lutz et Julie Depardieu. Et quand j'ai demandé à Salomé Lelouch si elle écoutait beaucoup de chansons, elle m'a répondu oui, essentiellement des chanteurs morts. Aznavour, Barbara, Reggiani.
Je les écoutais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mais jeune, hein, très jeune, je devais avoir entre 10 et 13 ans. Je pense qu'il n'y a pas de chanson d'eux que je ne connais pas.
Parce que c'est eux qui écoutaient vos parents ?
Pas du tout. Non, mes parents, ils avaient des goûts musicaux vachement plus modernes que moi, je pense. Vachement plus contemporains.
Alors, c'est lié à quoi ?
Quand j'ai découvert l'interprétation de Barbara et de Reggiani, je pense que ça m'a bouleversée. C'est des voix qui m'ont bouleversée, des histoires, des textes qui m'ont bouleversée. Il y avait un espèce de plaisir dans la mélancolie que je ne saurais pas bien définir. Et c'est vrai que ces chansons très tristes me mettaient de très bonne humeur par ailleurs.
Je trouve que la vie sert à rien sans elle. Et pourtant, ça me ferait pas du tout de bien qu'elle revienne. Pour autant... Je sais que je vais beaucoup mieux, que c'est par là qu'il faut aller, mais sans amour, je vais nulle part. Sans amour, je ne fais qu'errer. J'ai jamais fait de projet, jamais pris de pari, jamais passé même un été dans ma vie sans le cœur qui pèse, ou le cœur qui plaide, ou le cœur qui motive. J'ai jamais fait de projet, jamais pris de pari, jamais passé même un été dans ma vie sans l'amour qui rêve, ou l'amour qui pleure, ou l'amour qui ravive. Là, je danse et je traîne dans un monde vide. De sel, de vie, de chance et de prière. Et mes sens s'éteignent sous une onde grise de grêle, de pluie. Et avant que l'amour ne revienne.
Alors, ce n'est pas un chanteur mort qui a finalement choisi Salomé Lelouch, Frédéric. Il s'agit de Ben Mazoué.
Il est bien vivant, Ben Mazoué. Avec Les Jours Heureux, le dernier titre de Paradis, son 4e album. C'est grâce à cette chanson-là que Salomé Lelouch l'a découvert.
Après, j'ai écouté les autres chansons que j'ai trouvées très bien et tout, mais c'est vraiment cette chanson-là qui est rentrée dans mon top de chansons et que j'écoute en boucle. C'est-à-dire que quand je l'écoute, je la remets, comme les enfants. Ma fille fait ça aussi avec les musiques. Je connais moins d'adultes qui le font. Je sais que ça peut agacer autour de moi. Et je déteste les fins de chansons, je la remets toujours avant la fin. J'aime pas du tout finir les chansons.
Ah, vous ne laissez pas les dernières notes ?
Non, non. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça m'angoisse. Je ne saurais pas dire pourquoi. Du coup, je remets au début. Mais c'est ça que j'aime bien avec les chansons. C'est-à-dire qu'en fait, on écoute et on se dit, oh, j'ai envie de la réentendre. Alors qu'il y a plein de chansons qu'on écoute, qu'on trouve agréables, chouettes, sympas, intelligentes, on aime, mais on se dit pas tout de suite, j'ai envie de la remettre. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai un rapport avec la chanson qui est très différent des livres ou même des films ou des pièces de théâtre. C'est qu'on se dit pas, chouette, je vais tout de suite retourner voir ce film. Oh, je vais relire tout de suite ce livre. Moi, les chansons, je sais que ce qui me dit que je les aime, c'est quand tout de suite j'ai envie de la réécouter.
Tout se croit, des amours d'élevage conquis sur l'appli de ton choix, tout se voit. Des amours sauvages, fortuits qui n'arrivent qu'une fois, tout se croit. Les amours d'élevage conquis sur l'appli de ton choix, d'accord.
Pour vous, c'est quoi un jour heureux?
Ah, c'est rare que ça dure toute la journée quand même. Hein. Mais les jours heureux, c'est une manière de parler aussi d'une époque qu'on n'a pas vu passer comme étant heureuse et qu'on voit après coup. Des fois, on a des souvenirs de périodes en se disant j'étais très heureux, alors qu'en fait, pendant qu'on la vivait, on n'avait pas forcément ce sentiment-là. C'est aussi un regard sur quelque chose. À l'inverse, il y a des périodes qui nous ont paru très heureuses à vivre et on ne s'en rappelle pas.
Vous, aujourd'hui, vous êtes dans une période de jours heureux ?
J'adore être heureuse et je fais des efforts pour l'être. Voilà, ça marche plus ou moins bien. Mais moi, j'ai une tendance à vraiment essayer de ralentir les moments de bonheur parce que je sais que ils vont s'arrêter. C'est aussi pour ça qu'ils sont agréables. Mais vous me posez plein de questions que je ne m'étais jamais posées sur cette chanson.
Vous y avez répondu quand même.
J'ai essayé.
Je danse et je traîne dans un monde presque parfait qui fait sens, qui me fait du bien, qui me relance. Il en faut peu finalement et rien n'a changé. Pourtant, tout est bien mieux. Rien n'a changé seulement, c'est le temps des jours heureux.
Les jours heureux, Ben Mazoué, c'était donc Frédéric, le choix de Salomé Lelouch.
Qui a mis en scène la pièce Snow Therapy, à voir au théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'à la fin de la semaine.
À demain Frédéric.
À demain.
Après-demain, jeudi, nous serons en direct de Châteaudun en Eure-et-Loire, une commune où les quelques 13 000 habitants ont l'habitude depuis 20 ans, c'est incongru mais c'est comme ça, de voter à l'image de l'ensemble des Français, et cela s'est encore vérifié au premier tour de cette élection présidentielle. Alors pour ce premier épisode, Yann Gallic s'est rendu à la guinguette de Châteaudun. Avant le second tour, la balance semble pencher là-bas pour Emmanuel Macron.
Quelques dizaines de personnes sont tranquillement attablées ici à la guinguette des Fouleries, sur les bords du Loir, la rivière qui traverse Châteaudun. Cette petite guinguette a été reprise il y a un an par de jeunes boulangers qui voulaient redynamiser le centre-ville.
Je m'appelle Michael Belpaume, responsable de la guinguette du coup des Fouleries à Châteaudun. Là autour de nous, on n'a vraiment que les petits tonneaux. Là-bas, on va avoir une table qu'on a récupérée, des trous en bois pour pouvoir s'asseoir. Enfin voilà, tout ça, c'est que des choses de récupération. Et on évite tout ce qui va être gobelet, tout ce qui est paille, tout ça. Et ça nous convient très bien parce que voilà, on se préoccupe énormément de l'écologie.
Qu'est-ce que vous avez voté, vous, au premier tour ?
Moi, clairement, j'ai voté Macron. Je pense qu'on a tous eu des moments où on n'était pas d'accord avec lui. Mais malheureusement, diriger un pays, c'est pas non plus super facile. Il a des très bonnes idées, il a réussi à nous en sortir jusqu'ici, donc je pense qu'on peut lui faire confiance encore un petit peu. Par exemple, nous qui avons moins de 25 ans, justement, on a quand même beaucoup d'aide, nous, de plus en plus pour les jeunes, pour justement nous apprendre à travailler, à se mettre au travail et justement à avancer dans la vie. Donc je trouve ça super intéressant.
Donc sur l'emploi des jeunes, Emmanuel Macron a été plutôt bon, selon vous ?
Ouais, je pense, ouais. Alors après, voilà, ça reste mon avis, mais je pense que ça a été vraiment dynamisant pour nous.
Vous venez souvent ici ?
Oui, l'année dernière, on est venu, mais ça venait d'ouvrir. Hein. Et cette année, c'est la première fois qu'on vient.
Très bien dans la guinguette.
Ah oui, on se trouve très bien.
C'est comment votre prénom, madame ?
Moi, Ginette.
Ginette. C'est indiscret de vous demander votre âge ?
84. Je ne vais pas vous dire que, je n'aimerais pas que l'extrême droite, voilà.
Vous n'aimeriez pas voir Marine Le Pen présidente ?
Si possible, non. Bon, il a fait des erreurs, mais pourquoi pas de nouveau Macron ?
Vous êtes un peu inquiet ou pas spécialement ?
Vous savez, mon âge, maintenant, on n'est plus inquiet de grand-chose. Nous. Si on pense à nos enfants, qu'ils aient une vie paisible par rapport à ce qui se passe en ce moment au niveau de la politique.
Votre choix pour le second tour est assez clair.
Ah bah bien sûr.
Oui, ils viennent vous dire. Hein,
oui.
Qu'ils ne voulaient pas que ce
pas tourner autour du pot.
Marine Le Pen. Hein.
Anti-Le Pen, oui. Bah oui, c'est tout.
Moi, je suis DJ, on est en train d'une discothèque à côté de Chartres.
Est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter pour le second tour ?
J'en ai aucune idée pour le moment, j'ai pas encore fait mon opinion. Moi, j'avais voté Mélenchon, j'attends de voir cette semaine, et on verra dimanche. Je pense que ça va se jouer devant l'urne.
Et vous, en tant que DJ, comment vous avez fait pendant la pandémie ? Vous étiez au chômage technique ? Comment ça s'est passé ?
J'étais au chômage technique, du coup. On a été un peu mis de côté, je trouve, sur la crise. Concernant déjà toutes les aides qu'on a eues, ça a été difficile à mettre en place. Il y a certains collègues DJ à moi qui sont indépendants du coup, qui facturent à la prestation et eux, ils n'ont pas eu le droit aux aides ou très peu. Et du coup, ils ont dû se reconvertir, trouver un travail, faire de l'intérim et c'était très compliqué pour eux. On n'a pas parlé beaucoup de jeunesse pendant cette crise du Covid. Il n'y a pas de candidat qui sort plus qu'un autre. En fait, on a voté plus par dépit que par intérêt du coup. On a un président sortant qui ne nous a pas écoutés pendant la crise du Covid. Peut-être que ça fera peser dans la balance au moment du vote, mais on ne sait pas.
Yann Gallic pour ce reportage à Châteaudun.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire. Jean Lebrun, vous vous intéressez au référendum dans la présidentielle. Les deux candidats en ont deux visions très différentes. La cinquième est réputée pour lui donner une grande place. C'est à vérifier.
Alors le grand moment, ça a été le moment gaullien. Cinq référendums au compteur du général. Un pour Pompidou, deux pour Mitterrand et Chirac. Aucun depuis l'échec de 2005 sur le projet de constitution européenne. Vous conviendrez, Jérôme, qu'il est des pays démocratiques, plus grands producteurs de référendums. Qu'on pense à la Suisse, plus de 400, enfin il est vrai depuis le XVIe siècle, ou même notre voisine, l'Italie, qui règle ainsi beaucoup de problèmes de société.
Alors nos référendums viennent d'en haut et leur initiative est strictement bornée.
Emmanuel Macron aime en rappeler les règles. L'article 11 de la Constitution, dont il était question à votre micro il y a un instant, modifié 1994-2008, permet au président de soumettre tout projet de loi relevant de la politique économique, sociale, environnementale et éventuellement la ratification d'un traité. Mais si le fonctionnement des pouvoirs publics peut s'en trouver transformé, il ne faut pas que le texte de la Constitution en soit modifié et utilisé. Cet article 11 pour modifier l'article 11, ce serait un peu curieux. Alors, dans l'hypothèse d'une modification de la Constitution, le président doit passer par l'article 89 et faire d'abord approuver, vous le rappeliez tout à l'heure, son texte par les deux chambres dans des termes identiques. C'est une épreuve très difficile à franchir. Mitterrand y a échoué plus d'une fois, Macron lui-même une fois.
Ça, c'est pour le haut et le référendum par le bas.
Alors, une quarantaine de pays pratiquent ce que nous appelons maintenant le référendum d'initiative citoyenne. Le personnel politique français a fait souvent mine de s'y rallier pour en souligner aussitôt les difficultés. L'abstention est à ce point enquistée que ça ne la ferait pas diminuer. En 95, Jacques Toubon, le garde des Sceaux de Jacques Chirac, observait « Ce serait le rêve, mais dans une démocratie apaisée qu'on n'est pas prêt d'atteindre. » Alors Emmanuel Macron a imaginé une initiative partagée. Une fois rassemblé un cinquième des parlementaires et un dixième des électeurs inscrits, un référendum pourrait être convoqué. L'expérience du texte, souvenez-vous, contre la privatisation des aéroports, signée pourtant par des parlementaires de tous bords, a montré que la marche était bien haute.
Imaginons donc un seuil moins élevé. 500 000 électeurs inscrits, beaucoup de textes, pourraient facilement bousculer la Constitution.
Rares sont les pays qui n'accompagnent pas le référendum d'initiative populaire d'un contrôle de constitutionnalité. Alors parmi eux, 26 États des États-Unis qui pratiquent beaucoup le référendum et la Suisse aussi. En Italie, la Cour suprême peut intervenir. Cet hiver, une association pro-euthanasie avait recueilli 1 200 000 signatures, bien au-delà des 500 000 que vous évoquez. La Cour suprême de Rome a mis le holà au nom du respect des droits des plus faibles. Emmanuel Macron, sur ce sujet de la fin de vie, propose un travail de longue haleine dans une convention citoyenne dont sortirait un texte qu'il proposerait au peuple.
La Constitution est là pour poser des repères et des bornes.
C'est bien dit. Dans ses propositions, Marine Le Pen s'irrite des limites que pourraient rencontrer et les référendums par le haut qu'elle veut initier et les référendums par le bas qu'elle veut faciliter. L'adoption de la préférence nationale, par exemple, dans l'emploi et les prestations sociales, entrerait en contradiction avec une demi-douzaine d'articles de la Constitution et avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946 qui appartiennent au bloc de constitutionnalité, bloc intangible.
Cette tradition française remonte au Second Empire, il faut le rappeler. Depuis, il inspire la méfiance, ce référendum. Un coup de force peut facilement être légitimé par un plébiscite.
Alors, Second Empire, c'est le bibicite, comme disait la population. Le plébiscite qui entérine une position prise en force. C'est un référendum mal entendu et qui peut devenir une étape qui fait entrer dans un régime autoritaire. Il arrive, me direz-vous, que le référendum en fasse sortir. Chili, 1988, la junte voulait un nouveau mandat de 8 ans pour Pinochet. Le corps électoral a refusé par 55 contre 45 avec un taux de participation de 90%. Un quart de siècle plus tard, le Chili s'échine encore à fixer une nouvelle constitution parce qu'on sort plus difficilement d'un régime autoritaire qu'on y entre.
Le référendum dans le vif de l'histoire. Merci à vous Jean Lebrun. À demain. Et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme.
La Terre au carré dans quelques minutes. Quel est le programme aujourd'hui?
Eh bien, nous allons essayer de faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre sur nos voyages longue distance, se consacrer au travail, mais surtout pour aller en vacances.
J'attends le mode d'emploi. À tout à l'heure Mathieu.